Bonjour, vous êtes bien sur l'autre radio. Bienvenue dans Transistor l'émission pour une heure de rencontres, de discussions à bâton rompu et de musique, bien sûr. L'homme que nous recevons aujourd'hui a souvent un livre à la main, parfois un chapeau sur la tête. Il est acteur pour le cinéma, parfois aussi, pour le théâtre surtout, metteur en scène également et directeur artistique de la Hop Company. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Sueur. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Alors on y reviendra bien sûr au cours de cette émission. Tous les spectacles que tu as créés, en tout cas à ma connaissance, mettent en scène des auteurs contemporains, enfin des textes d'auteurs contemporains.
Ouais.
On sent une appétence, un vrai goût pour l'écriture contemporaine, pour la littérature contemporaine, pour les écritures théâtrales d'aujourd'hui dans ton travail. Il n'y a jamais eu l'envie d'aller plutôt vers du répertoire classique. Voilà, comment tu expliquerais ce rapport-là au théâtre contemporain et ces choix-là que tu as pu faire à travers ta déjà longue carrière?
Longue carrière, ça fait un moment. Mais alors, juste une précision comme ça, on est deux à la direction de Hop Company. Hein. Je suis co-directeur.
C'est bien de le préciser, effectivement.
Il y a Paul Grolot qui met en scène aussi. Pourquoi les écritures contemporaines? Parce que je pense que c'est une manière d'être au monde, quoi, pour moi, qui était importante dans le choix de ce métier-là. Et que j'ai pas forcément d'appétence pour les spectacles qui ont pas un rapport, je dirais, avec la dureté du monde. Je pense que c'est ça qui me fait aller vers les écritures contemporaines. Et voilà, même si le théâtre est un endroit où la consolation est une chose aussi importante, je crois, et parce que c'est un art vivant. Mais voilà, je suis plus attiré par ça parce que on a toujours fait avec Paul des spectacles, je pourrais dire, plus ou moins engagés. Moi, si j'ai voulu être comédien, c'est aussi pour dire des choses sur un plateau que je n'étais pas forcément capable de dire autrement, par un autre biais. Et c'est venu comme ça, en fait.
Le théâtre a un rôle politique presque dans la façon,
oui,
dont
clairement,
tu l'abordes.
Ouais. En tout cas citoyen, ça c'est sûr.
Le théâtre a quelque chose à dire sur notre vie d'aujourd'hui, sur notre quotidien, sur ce qu'on entend à la radio, ce qu'on voit dans la rue.
Ouais, j'espère qu'il a des choses à dire et qu'il en aura encore à dire, même si voilà, la culture, on aura peut-être l'occasion d'aborder ça autrement tout à l'heure, mais c'est pas forcément quelque chose qui va très très bien. Parce qu'on est de moins en moins aidé, les compagnies, des choses comme ça. Le cinéma aussi est moins aidé. Mais en même temps, il y a toujours... on a l'impression que le théâtre va toujours mourir et il ne meurt jamais. Moi, quand j'ai commencé ce métier, il y a longtemps...
il y avait déjà des discours de
oui,
ce type-là.
Oui, bien sûr. Je me souviens de certaines conversations de metteurs en scène. Au début, ce n'était pas tout à fait le début des années Chéreau ou Jean-Pierre Vincent, mais ils n'étaient pas vieux non plus, quoi.
Donc là, on est dans les années 70.
Un peu plus tard. Pour moi, c'est
80,
ça, c'était 80-85. Et donc Chéreau, je ne sais pas, avait... 35 ans, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises.
Patrick Sueur, donc grand metteur en scène de théâtre et de cinéma.
Oui, grand metteur en scène. Et voilà, on se posait déjà les questions de pourquoi on fait un théâtre comme ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai fait le choix d'un théâtre qui parle du monde dans lequel je vis et de la dureté du monde, surtout parce que j'ai des spectacles qui ne sont pas forcément estampillés comédie, souvent. Alors que dans la vie, je suis plutôt quelqu'un à l'opposé de ça, quoi.
Ouais,
c'est ce qui... Non, mais c'est ce qui étonne souvent les gens, dire, parce que je suis plutôt quelqu'un qui aime bien rigoler, tout ça. Mais je crois que je sais faire que ça, en fait. Et puis je trouve qu'il y a des gens qui font ça tellement bien, la comédie, que je leur laisse la place.
Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever, forever
Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Donc, Patrick, peut-être un petit mot sur ce titre, puisque c'est ton choix. C'est ouais, toi qui nous a proposé d'entamer cette émission.
C'est gentil, je suis assez touché que vous m'ayez proposé ce truc-là, enfin que tu m'aies proposé ce truc-là, mais pourquoi Aretha Franklin? D'une part parce que j'adore cette chanteuse, et puis parce que ce morceau-là particulièrement, c'est un réveil matin, en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le matin, j'aime bien me mettre ça, surtout les matins où je me sens un peu, pas forcément toujours d'équerre, quoi.
Mais, ça te remet en place.
Ouais, mais puis ça donne la pêche, quoi. Voilà. Voilà, et puis la voix, quoi, enfin...
C'est un morceau qui est sorti...
Le jazz aussi, parce que je suis assez jazz, quoi.
D'accord. C'est un morceau qui est sorti en 1968.
C'est possible, ouais.
Quelques années après ta naissance.
je sens depuis tout à l'heure que tu as envie de me chambrer.
On va rester pudique sur les chiffres.
Ouais, 9 ans après.
Est-ce que c'est un morceau qui... tout est dit. Est-ce que c'est un morceau qu'on écoutait chez les Sueurs, voilà, puisque tu avais une dizaine d'années quand ce morceau-là est sorti?
Ah non, pas du tout. Voilà, du tout.
Est-ce que chez vous, est-ce que dans ta famille...
Alors, chez moi, à la maison, c'était beaucoup de chansons françaises.
Il y avait des disques, il y avait des...
Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Et ma mère écoutait énormément de chansons. Parce qu'elle nous a élevés jusqu'à un certain âge sans travailler. Enfin, elle était mère au foyer. Mon père travaillait tôt le matin, tout ça. Donc, il rentrait tard. Donc, elle s'occupait de nous. Et sa journée était souvent timée par ça. C'est-à-dire les moments où on partait à l'école, où on nous emmenait quand on était petit ou quand on partait quand on était plus grand seul. Et les moments où on rentrait le midi, quand on rentrait, voilà. Donc, et le temps de faire ce qu'elle avait à faire, il y avait toujours de la musique. Et ma mère, c'était essentiellement Piaf.
Ouais.
Vraiment Piaf. C'était... Moi, je pense que c'est probablement une des premières voix chantées que j'ai entendues à la maison. J'ai entendu tout court. Edith Piaf, donc c'est pas mal.
Ouais.
Et puis sinon, après, mon père, lui aussi, beaucoup, mais plutôt, alors là... plutôt Brel, Ferré, enfin les grands classiques, quoi, Barbara, tout ça. Donc avec mes frères, on a été vraiment baignés là-dedans. Reggiani aussi, beaucoup.
Il y avait aussi des livres à la maison. C'est comme ça que tu es rentré en connexion.
Non. Alors c'est rigolo parce que mon père lisait beaucoup, mais on n'était pas interdit de lecture, mais pas loin.
Ouais.
C'était du genre, les études, ça sert à rien, ça. Faites un truc déjà, étudiez les maths et tout ça, soyez bon en maths, ayez un métier, voilà. Et donc moi j'étais très malheureux parce que pour un de mes Noëls, je crois que je dois avoir 10 ans, un truc comme ça, j'ai eu 10 tomes, parce qu'à ce moment-là c'était comme ça que c'était, des Misérables,
ouais.
d'Hugo, et j'ai dévoré ce truc-là et j'ai adoré, et c'est ça qui m'a donné envie en fait. Mais j'avais une dizaine d'années, mais comme mes frères n'étaient pas trop lecture, quand j'avais un bouquin c'était plutôt pour le colorier, tu vois, donc j'ai un peu lâché aussi le truc, et puis non, c'est venu beaucoup plus tard, beaucoup plus tard en fait.
Ça a été quoi le déclic qui t'a mis sur la voie de ce que tu as fait ensuite, c'est-à-dire le théâtre, j'imagine, voilà, quelles ont été les rencontres, les déclics importants dans ta vie d'adolescent
Un animateur. On avait ça s'appelait pas une maison de quartier, mais c'était un peu ça, quoi.
On est où là en fait, géographiquement parlant?
Géographiquement, on est en banlieue nord parisienne, dans les quartiers un peu
populaires,
très très populaires. Et j'ai 16-17 ans, et donc il y a un type qu'on connaît bien dans le quartier qui s'occupe de la MJC, et il y a un atelier théâtre. Et moi, je suis plutôt à traîner avec des copains. Enfin, on fait du sport, du foot, un peu de trucs comme ça. On traîne, quoi. On fait pas trop de conneries, mais on traîne. Et le gars qui m'aimait bien, je sais pas pourquoi, et me dit, tiens, il y a un atelier de théâtre, ça serait pas mal si tu passes. Là, je commence à me faire chambrer si j'y vais, parce que tu vois, le théâtre, c'était vraiment pas un truc de garçon, quoi, pour eux.
Ouais.
Enfin, c'est un peu le clicheton, mais c'est quand même vraiment ça. Et je rentre dans cet atelier, il y a que des filles. Et je me dis, c'est pas mal.
Bonne pioche.
Et non, en fait, je suis venu au théâtre comme ça, et je suis resté, en fait, c'est ce que je dis
souvent.
Il y a
des mecs qui font du rock pour les meufs.
Ouais, mais pas pour les bonnes raisons, en fait.
Non,
tu vois,
mais je rigole.
Ouais. Et après, évidemment, tout change, parce que je découvre des textes, des auteurs, voilà. Mais le fait d'avoir vu que des filles, je me suis dit, tu sais, comment c'est quand t'as 16-17 ans en cité, tu traînes qu'avec des mecs, quoi.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, je me suis dit, le monde change. En fait, c'est ça.
Et qu'est-ce qui va t'accrocher dans cette pratique-là, dans ce premier atelier que tu as pu expérimenter?
Les mots. les mots. Je découvre les mots, en fait, c'est-à-dire les constructions, c'est-à-dire des textes, des auteurs. Alors, pour le coup, là, souvent plus classique que contemporain. On ne parlait pas encore dans ces années-là. Je parle de ça, c'est les années 75, 14-15, en tout cas.
Le grand répertoire,
voilà.
Les grands textes.
Voilà, ouais. Les grands textes, donc Molière, donc Marivaux, donc Musset, un peu de Shakespeare, mais surtout Molière. C'est là où je découvre Molière, je me dis, tiens, c'est un auteur, donc. Et c'est pas juste un nom de lycée ou de rue. Non, mais voilà, ça paraît bête. Hein, mais, donc je découvre ça et là je me dis, c'est une façon aussi de parler qui est tellement pas celle qu'on a. Donc la difficulté que ça représente et en même temps le vrai challenge, quoi, de réussir à toucher quelqu'un, un partenaire avec qui on parle, avec des manières de dire qui sont tellement éloignées de celles qu'on utilise au quotidien. Et de se dire que tout d'un coup, on touche autrement, quoi, par une autre langue. C'est comme une langue étrangère, elle est presque.
Ouais.
Et ça, c'est fantastique. Et donc ça m'a rendu vraiment accro. En dehors du fait que, qu'à chaque fois que j'avais un partenaire, c'était une partenaire. Quoi. Donc, forcément, ça aide.
Il y a cette expérience, qui est une expérience dans ton quartier, dans une MJC. Qu'est-ce qui va faire que, de cette expérience-là, adolescente, tu vas à un moment te dire, ça peut devenir ma vie, ça peut devenir mon métier. Je peux en faire...
Bah, c'est lié toujours à la même personne, à cet animateur.
Saint animateur.
Ouais. On peut... Ouais, vraiment, ouais. Vraiment.
Il y a des personnes comme
qui
ça, des
qui m'a inscrit, pour le coup, là, un vrai cours de théâtre, à Paris. Et puis, voilà, les choses se sont faites comme ça ensuite.
Il avait détecté un talent, peut-être.
Ouais, en tout cas, je ne sais pas si c'est un talent, mais en tout cas, une envie. Une envie, et il sentait que je me débrouillais pas trop mal, quoi. Et puis, c'était aussi un moyen de me faire quitter la banlieue. Tu vois, quand nous, on allait au collège, au lycée, là, tout était sur
quelque
place.
Quelque chose,
quoi,
qui était un peu en vase clos.
Et tout d'un coup...
traverser la frontière, le périph.
Mais ouais, voilà. Et donc, c'est autre chose. Et,
un autre monde.
Tu découvres une ville, Paris, quoi. Et là, c'est différent. Et puis, tu as des gens qui viennent d'horizons différents. Il y avait des gens qui arrivaient de province dans ce cours-là.
Alors, est-ce que c'est le cours de Radka?
Ouais, Radka Ryazkova.
Voilà, pardon.
Absolument. Qui était bulgare. Enfin, qui est toujours, peut-être, hein, parce que je ne sais pas si elle vit toujours. Elle ne doit pas être si vieille, mais peut-être que... Voilà, et là, il y avait des provinciaux, des gens comme moi, de la banlieue.
Et là, ça doit être une autre musique, parce que tu pars d'un atelier...
Là, déjà, je travaille avec des garçons aussi.
Ouais, mais là, il y a d'autres ambitions, d'autres exigences, j'imagine.
Oui, et puis surtout, c'est Radka, c'était quelqu'un de... C'était l'école russe, au niveau théâtral. On travaillait Tchekhov. On travaillait Pushkin. Et tout d'un coup, c'est t'arrives en retard, tu passes pas tes scènes, enfin tu vois, tu dis,
une discipline russe aussi.
Oula, où on est là. Tu vois, alors que bon, t'arrivais quand t'étais à la MJC, tu connais pas bien le texte,
c'est ça.
Voilà, mais non, encore qu'on travaillait bien quand même. Mais là, oui, ça change. Il y a des enjeux, il y a des rivalités aussi. C'est-à-dire que même si on a tendance à dire le théâtre c'est une grande famille comme le cinéma et tout ça, tu vois bien que quand
les gens... Il y a une concurrence aussi.
Bien sûr. Mais en même temps, si c'est de la concurrence qui se traduit par de l'émulation...
C'est sain.
C'est très sain. C'est pas toujours le cas, mais là, dans un cours comme ça, on était 15, donc c'était pas nombreux. Elle nous rencontrait avant... de dire oui, tu peux rentrer dans ce cours. Donc on passait une heure avec elle sur nos motivations, tu vois, un entretien d'embauche, quoi. Et ça, c'était assez flippant, parce que moi je connaissais pas ça, mais en même temps je me suis dit, ah ouais, donc pour faire du théâtre il faut quand même savoir pourquoi t'en fais. Et là,
quel est le sens,
voilà. Et là je me suis dit, c'est bien aussi, voilà. Donc elle m'a accepté dans son cours qui a duré 2 ans, et ça a été 2 années super, parce que là tu passes, quand j'étais à la MJC, tu fais 2 heures semaine, quoi, tu vois, comme un atelier.
Et là c'était à temps plein,
Non, pas à temps plein, mais tu faisais une quinzaine d'heures quand même.
Tu poursuivais tes études en parallèle.
Ouais, enfin, j'ai pas trop gêné les gens avec ça, moi.
Tes études supérieures, t'as pas envie non plus de les étaler.
Non, c'est ça. J'allais souvent à l'école le dimanche, mais c'était fermé. Donc, non. Non, mais voilà,
en
j'ai fait
cas,
des études classiques un peu comme
cours,
ça.
Ce cours, il t'a emmené vers le Conservatoire National d'Art.
Ouais, c'est Radka qui m'a proposé.
Qui est quand même l'école en France de théâtre, enfin une des grandes écoles.
À cette époque-là, c'était une école importante.
On entrait sur concours.
Ouais, c'était la seule école, le seul conservatoire national supérieur. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Enfin, ça reste une école
importante.
Voilà,
mais en tout cas,
importante.
À l'époque, il y en avait très peu et c'était.
Non, il y avait très peu. Alors, je sais plus. Il y avait
une grande référence.
Les classes, c'est 15 ou entre 15 et 20 élèves, et t'as 800 ou 900 candidats, quoi. Mais après, c'est pas. De toute façon, quand tu arrives au conservatoire, que tu passes le concours, t'es pas bon. Enfin, t'es pas comédien, sinon t'as pas besoin de rentrer au conservatoire. Mais je crois que les membres du jury sont là et décèlent un truc chez toi qui voit que peut-être si tu travailles là-dessus. Enfin, tu vois. Après, moi, j'ai des copains qui ont été refoulés au conservatoire et qui sont devenus et restés des comédiens qui sont super bons. Et,
tant mieux.
Et des comédiens qui ont fait le conservatoire et qui sont pas. Enfin, tu vois.
Bien sûr. Donc, oui, c'est qu'une école.
Mais c'est une grande école. C'est-à-dire que c'est l'école de la rigueur, surtout.
Et du coup, qu'est-ce que, justement, tu dis, avant d'entrer au conservatoire, on n'est pas comédien. En sortant, on peut le devenir. Qu'est-ce qu'on apprend, justement, en fait ? Qu'est-ce que toi, tu as appris, en tout cas, de ce métier-là, au cours de cette formation-là ?
Bah, ça dépend. C'est tellement lié au prof que tu as, quoi. Tellement lié au prof que tu as.
Il y a aussi une histoire de rencontre humaine.
Ouais, mais il y a vraiment. Alors, moi, j'ai jamais eu de rapport avec. Comme certains élèves peuvent avoir dans des grands cours comme ça, le rapport genre.
Maître à élève.
Mon prof, c'est un maître et tout ça. Moi, je suis jamais rentré là-dedans. Peut-être aussi du fait de mon parcours. Hein. Venant de banlieue, enfin, tu vois, le rapport au maître. Voilà, moi, j'ai un rapport à mon père, ma mère. Voilà. Mais non, c'était. Par contre, tu sens très vite que tu as des gens qui te regardent d'une manière particulière, singulière, et que tu sens que dans leur regard, ils sont plutôt contents que tu sois là et que tu as envie de monter sur le plateau et tu bosses tes scènes. Y a une rigueur. Moi, ce que j'ai appris, c'est la rigueur, c'est le travail. Quoi. Je ne sais plus qui avait dit ça, je crois que c'est Michel Bouquet, que être acteur, c'est 50% de travail et 50% de travail.
Ah oui.
Ouais, donc, mais je pense que c'est vrai. Je veux dire, en tout cas, moi, je me méfie des acteurs un peu romantiques, genre inspirés. Enfin, tu vois, il y en a plein.
Inspiration divine.
Ouais, c'est ça. Il y en a plein. Hein, je veux dire, après, bon, moi, c'est pas ma came, quoi. Mais moi, je crois à une seule vertu, c'est travailler, quoi.
Après Aretha Franklin, qu'on a entendu tout à l'heure, on va rester dans les 60s avec ce Forgetful que tu as choisi aussi, Patrick, de Chet Baker, un titre beau, doux et triste à pleurer. Lately, you've been so forgetful, a kind of a stop and go. Forgetfulness that bothers me. Kisses. I once had a net full, but you've been forgetful, and I'm never kissed, and it bothers me. Romance, never any romance, no chance, and it bothers me. Someday,
when you are regretful, you'll wish you had tried, much less forgetfulness. You'll be upset, and forgetful won't be able to forget.
Chet Baker, un choix musical toujours de notre invité, Patrick Sueur, qui j'ai l'impression cultive en musique un goût pour la mélancolie, mais peut-être que je me trompe.
Je ne me trompe pas du tout. Je suis sensible à ça, sensible aux voix aussi.
À ce jeu-là, Chet Baker, assez imbattable.
Il y en a sûrement qui sont très bons aussi, mais lui, pour moi, c'est un trompettiste aussi, comme ça. La voix, la trompette, chez lui, on a l'impression que c'est la même chose, quoi. Un peu comme... comme Jean-Marie Foucault.
En tout cas, il y a chez Chet Baker, en tout cas, une mélancolie, mais une légère, en fait, quelque chose de à la fois détaché, doux et en même temps profond et triste. Et voilà, c'est.
Moi, je suis pas. Je sais pas si je suis quelqu'un de triste. Je crois pas. La mélancolie, oui, sûrement, mais c'est ce qui me conduit aussi dans mon travail, je pense, dans mes choix. Probablement aussi de texte, je pense qu'il y a. J'écoute beaucoup de musique, beaucoup. Et ça, surtout depuis que je connais Paul, qui est à la base est danseuse.
Donc Paul Grolot, qui est la co-directrice de la compagnie.
La compagnie avec moi.
Hop, compagnie.
Et qui est.
Qui t'a fait découvrir le morceau qu'on vient d'écouter.
Absolument, c'est elle qui m'a fait découvrir le morceau qu'on a écouté. Elle écoute beaucoup de musique parce que au départ elle est danseuse et chorégraphe et donc elle utilise beaucoup ça et moi elle m'a fait découvrir des trucs que j'avais jamais entendu et voilà et donc mais c'est quelque chose la musique parce que c'est lié à mon histoire aussi familiale comme je l'ai dit tout à l'heure la musique elle m'accompagne tout le temps
et on y reviendra elle t'accompagne aussi dans ton travail d'acteur de comédien de metteur en scène on y reviendra en parlant notamment de la pièce que j'ai évoquée tout à l'heure, qu'on a évoquée, enfin je crois pas d'ailleurs qu'on l'a évoquée en introduction, dont on va parler, ce que j'appelle oubli. Retour un petit peu sur ce qu'on disait avant d'écouter Chet Baker, sur le métier d'acteur, de comédien. Tu disais que tu n'étais pas forcément fan de l'acteur qui avait une sorte d'inspiration divine, une sorte de spontanéité comme ça, mais que tu étais plutôt de l'école de ceux qui travaillaient. Justement, quelle serait ta définition de l'acteur, ton rapport. Je sais qu'il y a plein de méthodes. On connaît la méthode de l'acteur studio, qui est peut-être la plus connue. Est-ce que toi, t'es adepte de cette méthode-là, par exemple? Je sais que tu travailles beaucoup tes rôles en amont. Je me souviens d'une anecdote avec un réalisateur qui s'appelle Sylvain Malin, qui fait des films en amateur en Mayenne, avec qui t'as pu une fois travailler. Il me disait que tu l'appelais avant pour lui dire oui, au fait, mon personnage, son père, en fait, c'est qui. Que t'avais besoin de beaucoup de détails biographiques, psychologiques pour incarner un personnage. Et ça correspond justement à tout le travail qu'on fournit avant. Voilà.
Je ne sais pas si c'est un travail psychologique. J'essaye de ne pas l'être, en fait, ça. Moi, alors je ne suis pas acteur studio, évidemment. je pense que je suis plutôt accumulateur studio. Tu vois ? C'est-à-dire que tout fait théâtre pour moi. C'est-à-dire que dès l'instant où je me lève le matin, quand j'entends des choses, quand je vois des choses, quand je bois un café, que j'écoute des gens...
Parce que finalement, quand on joue un rôle, on est bien obligé de reproduire des choses. Donc quand on est acteur, on est sans doute très observateur.
On ne fait que ça. Moi, je ne crois pas à cette histoire d'inventer quelque chose. C'est Brecht qui disait ça. On n'invente rien, on essaie de refaire autrement et c'est déjà pas mal. Quoi.
Donc il faut avoir les antennes, les oreilles grandes ouvertes.
Oui. Après, il y a sa fantaisie. Sa manière d'ajouter sa petite touche perso sur quelque chose. Quand tu joues des textes classiques, les rôles intéressants ont tous été joués déjà. Tous. Donc toi, si tu arrives et que tu fais la même chose, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est quelle est ta vision du rôle qui compte. Après, la méthode, au conservatoire, on apprend à travailler. un rôle, c'est-à-dire comment il faut passer énormément de temps à analyser la pièce. Moi, là, si je retiens un truc de ma formation, c'est ça, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ton rôle. C'est les autres, ceux autour qui font ton rôle. C'est-à-dire les autres personnages qui éclairent ton propre personnage. C'est ça qui compte. Et si tu comprends bien les autres personnages qui parlent de ton personnage, ça t'amène beaucoup de nourriture, en fait.
Et une forme d'empathie.
Bien sûr.
C'est très important.
Quand tu joues Richard III, qui est un monstre et tout ça, quand tu joues Richard III, qui est un monstre, si tu abordes Richard III comme un monstre et que tu montres que ce côté-là, ça n'a aucun intérêt. Parce que tout le monde sait que c'est un monstre. Si tu prends cet acteur magnifique qui est mort il y a très peu de temps, qui était Bruno Ganz, lorsqu'il a joué Hitler, quand même pas un rôle facile à jouer. D'ailleurs, il a hésité longuement à jouer ce rôle-là. Il est suisse, mais il parlait tout à fait l'allemand et tout ça. Et il racontait ça et je trouvais ça très juste, en fait. C'est que, en dehors du fait qu'il a travaillé techniquement sur le phrasé d'Hitler...
Hitler, là, du coup, il a existé, on peut aller voir des vidéos, on peut aller écouter, on peut s'inspirer, effectivement, mais des fois, on ne peut pas faire ça non plus.
Ouais, des fois, on ne peut pas le faire. Mais même quand tu le fais, c'est extrêmement dangereux, parce que si tu fais qu'appliquer la manière d'Hitler, c'est du mimétisme. Et lui, il a abordé le rôle. Il a abordé le rôle sur, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, La Chute, où il joue le rôle d'Hitler. Ouais. Si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est un film absolument sublime. Hein. En fait, il a travaillé sur le rapport d'Hitler aux chiens. Il avait deux chiens, deux bergers allemands, qu'il adorait. Et la seule fois où Hitler pleure dans ce film, c'est quand ses chiens meurent. Et donc, lui, il a travaillé sur ce qu'Hitler aurait pu être. Il a fait... on va pas passer la soirée sur Hitler.
Non, non, non.
Il a voulu faire...
Non, c'est intéressant, ça éclaire le propos.
Les Beaux-Arts et tout ça, mais il s'est fait...
C'est un artiste raté.
Mais c'est vachement important. Donc là-dedans, il y a tout un parcours du fait d'avoir mal vécu ce truc-là. Et Bruno Ganz a travaillé sur le côté sombre d'un personnage qui est déjà sombre. Je crois, moi, que ça n'a pas d'intérêt. C'est écrit déjà. Pourquoi tu veux t'enquiquiner à travailler sur ce qui est écrit et ce que les gens vont déjà entendre? Ce qui est important, c'est de trouver une épaisseur, quoi. C'est-à-dire de mettre des couches. C'est un millefeuille, en gros.
Et quelle partie de soi on met?
Tout. Si tu mets des choses...
Il faut aller chercher dans son vécu, dans son ressenti, dans
son
historique.
Oui, quand tu as vécu ces situations-là. Mais Ganz, c'est un bon exemple. Hein. Il n'a pas vécu Hitler. Enfin, il n'était pas Hitler.
Non, mais il a pu vivre des déceptions,
oui,
qui ont été celles...
Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des chemins, des passerelles, des parallèles avec une situation. Et c'est ça qui est important. Mais après, si tu ne mets pas de toi, si tu ne lâches pas prise... c'est toujours pareil, les gens qui font ce qu'on a appelé à l'époque de Stanislavski, de l'acteur studio, la construction du personnage.
Stanislavski, donc
un des grands penseurs,
dramaturge russe, enfin voilà,
oui,
qui est un des grands penseurs, mais qui a donné
du 20e siècle,
dont la pensée a donné naissance à la méthode de l'acteur studio.
Bien sûr, qui a été reprise ensuite par Lee Strasberg aux États-Unis. Mais si tu, comment dire? Je ne sais plus où est-ce que j'en étais.
Mais
si tu travailles ce rôle en te disant « je ne mets pas de moi dedans », tu n'arrives à rien, il faut lâcher prise. C'est-à-dire que tout ce que tu mets, c'est toi qui es sur scène, c'est ton corps, c'est ton enveloppe corporelle, c'est ta voix. Après, tu peux te mettre une bosse dans le dos pour faire Richard. Si tu as juste la bosse et que tu n'as pas bossé le truc, tu es un clown. Enfin, tu vois, donc... moi, je me méfie aussi de ça, des transformations physiques, beaucoup.
Des fois, le costume donne la posture.
Oui, ça peut t'aider. Tout ce qui peut t'aider, il faut le prendre. C'est pour ça que je dis plus que moi, ma méthode, c'est accumulateur studio, parce que la blague avec acteur studio, tu vois. Mais il faut regarder. Je crois que c'est ça, c'est le sens de l'observation aussi.
Alors, on parlait cinéma. On poursuit cette émission avec... Un acteur majeur du cinéma, Ennio Morricone, éminent compositeur de musique de film, dont on écoute le thème pour Lolita.
Thank you.
le magnifique thème du film Lolita de Stanley Kubrick, adaptation du livre de Vladimir Nabokov. Donc un thème composé par Ennio Morricone. Puisqu'on parle 7e art, Patrick, on a un peu parlé déjà cinéma. Quel rapport, toi, tu entretiens avec le cinéma, à la fois en tant que cinéphile, puis aussi en tant qu'acteur, puisque tu as une petite, je ne sais pas, en tout cas, une carrière aussi au cinéma. Tu as joué dans, j'ai noté, plusieurs films, notamment un film de Didier Bourdon,
ouais,
Les Inconnus. Tu as fait un film aussi avec Eric et Ramzy, où il y avait Édouard Baird aussi.
Ouais, ouais.
Un film de Luc Besson avec Robert De Niro.
Ouais, ouais,
voilà.
Ouais.
Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette expérience-là, ce rapport-là que tu as au cinéma?
C'est un rapport un peu particulier pour moi. Quand j'ai fait le premier film que j'ai fait, c'est rigolo parce que... En fait, c'est une directrice de casting qui était venue voir une amie à elle qui était comédienne, qui jouait dans le même spectacle au théâtre que moi. Et la nana, elle dit, comme ça, je reprofiterai, je vais voir d'autres acteurs. Et ça. Et donc, elle me voit et puis elle vient me voir à la fin en disant, oh là là, mais j'ai vachement aimé, faut qu'on se voit et tout ça, il faut qu'on se voit. Donc, tu sais, les directeurs et directrices de casting à Paris, c'est tous des... j'en ai connu pas mal hein, quand même. Ils sont tous excités, tous hyper bookés. Et tu les as pas vus pendant 6 mois et t'arrives et tu leur dis bonjour, t'as l'impression qu'on s'est vus 2 heures avant. Enfin,
ouais.
Tu vois, Patrick, tu vois, un truc un peu...
Exubérant.
Oui, mais tellement énorme, quoi, tellement genre à côté, quoi, que tu dis bon, ok. Et en même temps, donc, elle m'a fait passer mes premiers essais et j'ai fait 2 jours de tournage dans un film qui s'appelait, au titre prémonitoire, Droit dans le mur. Film de comment il s'appelle ce comique, le blond avec la chaussure noire là,
Pierre Richard.
Voilà, où j'ai tourné donc avec Pierre Richard et je sais plus comment il s'appelait, deux trois acteurs assez connus, et le film a vraiment été droit dans le mur.
Et c'était rigolo.
Et je me suis dit, pour une première, c'est bien quoi. Mais j'ai fait plusieurs choses comme ça pour la télé, notamment j'ai fait des séries policières où j'avais 7-8 jours de tournage, là où on peut développer déjà un peu de choses quoi. Et voilà, je travaille avec des réalisateurs comme Patrick De Wolf ou Pascal Chomeil. Je sais pas si vous connaissez Pascal Chomeil, celui qui a fait le film avec Vanessa Paradis et Romain Duris.
Aye.
Comment ça s'appelle, ça
l'arnaqueur.
Ouais, c'est ça, l'arnaqueur, voilà. Voilà, et ça, c'est un réalisateur avec lequel j'ai travaillé beaucoup. J'ai commencé avec une série sur Canal+, à l'époque où il y avait H. Il y avait une autre série qui s'appelait Blague à part, où j'ai joué des petits trucs comme ça, quoi, tu vois. Donc, le rapport au départ, c'est ça, et à l'arrivée aussi, d'ailleurs, c'est-à-dire...
Des hasards, des rencontres.
Ouais, mais une frustration, c'est-à-dire que tu arrives sur un tournage... t'as pas le scénario généralement de tout le film, on te donne ce qui s'est passé dans la scène d'avant et basta quoi.
Ouais, t'as aucune vue globale.
Donc t'as pas ce que moi je considère le plus important, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est-à-dire t'as pas l'atmosphère, t'as pas la température quoi. Et donc à partir de
difficile
là, c'est
difficile de s'investir.
Quoi,
ouais.
C'est tiède, c'est chaud, c'est froid, c'est quoi l'idée? Même si la scène elle peut être rigolote, c'est peut-être avant c'est pas rigolo du tout. Enfin tu vois.
Ouais. Voilà. Tu débarques alors, là-dedans.
Et donc paradoxalement, je trouve tout ce que j'ai fait au cinéma, à part une fois ou deux, peut-être, à chaque fois, c'était des trucs, des comédies. On prenait, ouais, toi, t'es un acteur comique. Mais en fait, parce que c'est ce que tu renvoies sur une image.
Physiquement.
Tu vois, voilà. Et alors, ça change un peu depuis quelques années, parce que déjà, je vieillis et tout ça. Et j'ai toujours fait un peu plus jeune que mon âge. Et à l'écran, ça se voit encore plus. Et quand j'avais 40, 45 ans, où je pouvais jouer des pères de famille, on me dit, non. Ça marchera pas.
Ouais.
Donc je passais les essais, tu vois, ça marche pas. Tu vois, on n'y croit pas, même si tes essais sont bons, t'es trahi par ça, quoi.
Ouais.
Voilà, donc j'ai un rapport un peu de frustration. Et là, j'ai fait une masterclass cinéma il y a pas longtemps, au mois de septembre à Paris, où j'ai travaillé que c'est un système où t'as 4 réals, 1 réal par semaine, 4 castings, 4 coachs, voilà. Et j'ai fait des rencontres super belles.
Et c'était quoi? C'était une formation que tu as
fait? Ouais, c'est une masterclass, c'est-à-dire que tu passes un petit concours, quoi, face à la caméra, pour savoir si tu peux participer à la masterclass. Et ensuite, pendant 4 semaines, tu as une semaine où tu as un coach qui te coach sur des scènes que le réalisateur qui a été choisi pour la première semaine a demandé. Ensuite, tu as un directeur de casting qui généralement travaille avec le réalisateur.
C'est quoi l'objectif?
Parcours, quoi.
De pouvoir après postuler à des castings.
Oui, et puis tu fais des rencontres. Donc moi j'ai travaillé sur les 4 semaines, il y en a une avec Zonka et la dernière avec Audiard.
Ouais.
Donc,
c'est du haut niveau.
Ouais, c'est
top bah
oui,
niveau
c'est,
là.
Là, c'est Stade de France, tu
ouais,
vois.
Ouais, c'est ça.
Donc lui, on l'a deux jours. Et avant, on a Virginie Wagon qui était son assistante pendant longtemps. Donc, il nous prépare au truc.
T'es retourné à l'école, en fait.
Ouais, je suis retourné à l'école. Et surtout, t'as 7 heures par jour. Pendant 7 heures, tu ne fais que ça. Tu travailles. Tu prends des pains. Hein, parce que tu sais que quand le coach, il te descend... il n'est pas là pour dire ouais t'es un acteur merveilleux ça, mais là je me suis fait allumer dans le jeu, tu vois, c'était trop théâtral, trop machin, arrête, gomme. Des fois t'as l'impression de pas bouger, gomme,
la caméra elle capte tout,
c'est mortel, et des fois j'avais l'impression de rien faire et le mec il me disait gomme, mais gomme quoi, je fais rien. Et voilà, mais donc ouais, ça a été des super belles rencontres. Et depuis là, j'ai pas mal de contacts. Alors je touche du bois ma tête, tiens, par exemple, voilà, parce que il y a des choses qui sont peut-être en train de se passer un peu, tu vois. Et c'est vraiment une envie, mais j'ai pas envie de jouer, de refaire des trucs une ou deux journées de tournage, ça m'intéresse, même si ça fait bouffer, hein, je veux dire, voilà, pas se voiler la face.
Artistiquement,
non plus, mais...
en tout cas, c'est pas ça.
J'ai envie de défendre des trucs comme je peux défendre au théâtre, quoi. Je pense que je suis capable, quoi.
Alors, puisque tu m'emmènes sur cette voie, parlons théâtre, c'est quand même aujourd'hui et depuis quelques années le cœur de ce que tu fais, de ton activité. T'es arrivé en Mayenne en 1998 et c'est à ce moment-là que tu vas créer la compagnie Le Théâtre Du. Est-ce que tu peux nous raconter cette arrivée-là, comment t'es arrivé ici et comment s'est créée cette compagnie et comment, voilà, comment elle a évolué?
Alors, je suis arrivé en Mayenne, en fait, parce que j'avais participé à Paris à un stage audition où on était plusieurs acteurs et actrices et où j'ai rencontré Virginie Fouchot.
Qui donc, metteur en scène, voilà, comédienne lavalloise.
Voilà, directrice du Théâtre d'Air. Et avec qui j'ai passé une dizaine de jours dans ce stage audition. Et... on s'est bien entendu, on a rigolé beaucoup, tout ça et tout, parce que c'est un peu une déconneuse, hein, Virginie Fouchot. Et voilà. Et puis le temps passe après ce stage, voilà. Et puis un jour, je sais plus, elle m'appelle, je crois. Elle travaillait déjà ici. Hein, elle habitait là.
Ouais, elle est originaire de Laval.
Voilà, elle habitait rue Bel Air là, avec ses parents. J'ai rencontré son père d'ailleurs, parce qu'il était encore en vie à ce moment-là.
Peintre. Et,
voilà. Très, très grand peintre, je trouve, moi, qui a fait des choses très belles. Et donc, elle m'appelle en me disant, voilà, j'ai des ateliers à Jean Massé, mais le gars avec qui je travaillais, François Béchu, a dû partir. On est un peu embêté. Est-ce que toi, ça te brancherait de faire ça et tout? J'avais jamais fait ça.
Alors, précisons, c'est des ateliers de théâtre, en fait, avec des jeunes.
Ouais, des jeunes, ouais, et, voilà, et des adultes.
D'initiation au théâtre.
Voilà. Et ça, c'était chapeauté par la FAL.
Donc, tu n'avais jamais été... prof, en tout cas,
non,
transmetteur.
Non, je suis toujours pas prof. Hein. Non, moi, j'essaie juste de transmettre des trucs, mais la pédagogie, c'est un truc qui se travaille aussi, quoi. Alors, avec le temps, on finit par commettre un peu moins d'erreurs, mais j'aime pas du tout cette idée de prof. Enfin, tu vois, je suis pas un prof de théâtre. J'aime bien transmettre. C'est-à-dire que j'ai tellement reçu, moi, pendant ma formation et tout ça, que je trouve ça plutôt bien aussi de renvoyer la balle, quoi. Et donc, je suis venu à Laval la première fois et j'ai fait la fin de la saison. Je suis arrivé un mois de janvier, je crois. Et puis, j'ai continué l'année d'après. Et puis, petit à petit, j'ai rencontré des élèves dans mon groupe adulte. Et il y avait un garçon et une fille, Sandrine Monceau et Bertrand Fournier, qui avaient envie d'aller plus loin que le théâtre amateur.
Simplement une pratique amateur de loisir.
Voilà. Et puis, on a creusé cette histoire-là ensemble et on a fondé le Théâtre Du. Je ne l'ai pas fondé tout seul, hein. On l'a fondé à trois. Même à quatre au départ, mais la quatrième personne est partie assez vite. Et voilà, c'est parti de là, quoi, en fait.
D'accord. Et premier texte monté, c'est un texte de Bernard-Marie Coltès.
Donc, dans la solitude. On avait fait des petites choses avant.
Ouais. Ouais, votre première pièce.
La première vraie pièce, c'est
dans
celle-là.
Dans la solitude,
ouais,
des Champs de Coton.
Ouais,
qui a été aussi mise en scène par Patrice Chéreau.
Qui avait été mise en scène par Patrice Chéreau. Je me souviens d'un premier rendez-vous à la DRAC, ici, en région Pays de Loire, qui m'avait dit, mais... ce texte-là, personne, à part Chéreau, l'a monté.
C'était quand même sacrément culotté de s'attaquer à ce truc-là. C'est
ouais,
un
mais...
duo avec un texte qui est quand même...
Ah oui, gratiné, ouais.
Et puis en plus, la mise en scène de Chéreau a quand même fait date.
Ouais, non, mais alors il n'était pas question là d'égaler Chéreau. Hein. Mais encore une fois, comme disait Brecht, mais de faire autrement. Mais oui, c'est une joute oratoire absolument sublime. C'est de la rhétorique pendant... pendant une heure et quart, quoi. Donc, un grand moment.
Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour trouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonnais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Les pluies acides décharnent les sapins. J'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonnais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi.
Bashung en live avec ce morceau Angora. Un mot sur ce titre, tu m'avais précisé, Patrick, tu voulais la version tout seul à la guitare, ouais. Pas la version orchestrée, la version de l'album, mais cette version live justement.
Ouais, parce que bah voilà, pour moi Bashung c'est un peu c'est quelqu'un que j'écoute très 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 souvent. Pour moi c'est un poète, c'est un compositeur, un arrangeur. C'est incroyable. Un gars qui fait des reprises, comme rarement j'ai vu quelqu'un faire des reprises. Voilà, qui écrivait certains textes aussi. Je sais pas, je pense qu'il les écrive.
Il a un rapport à l'écriture particulier, parce qu'il a toujours travaillé avec des paroliers.
Oui, c'est ça.
Jean Fauque, mais bah, qui, Jean Fauque, notamment. Ouais. Mais qui. Bah, j'ai entendu ce témoignage-là de Jean Fauque qui disait que il envoyait des trucs que Bashung raturait complètement, reprenait. Enfin, du coup, c'était un peu à deux mains, finalement.
Ah, ouais, quand même, je savais pas ça.
Ouais,
ah,
ouais. Ouais. Que du coup il y avait beaucoup d'aller-retour et de
finalement
qu'il y mettait beaucoup de lui-même.
Ça m'étonne pas en même temps.
En tout cas c'est vrai que dans Bashung il y a finalement c'est pas étonnant ce choix parce qu'il y a tout ce que tu aimes quoi. Il y a ce rapport à la langue très fort et avec une langue qui est très je sais pas si elle est élaborée mais en tout cas chaque mot est choisi quoi. Et puis il y a aussi cette qualité d'interprète parce que Bashung c'est un acteur quoi.
Complètement.
Quand il chante une chanson il y met. On parlait tout à l'heure de ce qu'on y met, mais lui, toute sa personne est là dans, quand il chante. Il y a un personnage, il y a quelque chose de très épais.
Quel que soit l'univers du morceau, il ne triche pas. C'est toujours lui tout le temps. Mais ça consume, ça. Enfin, tu vois, après, il s'est consumé aussi avec d'autres trucs. Mais c'est important, la langue. Ouais. Enfin, moi, si je suis autant attiré par le théâtre, c'est parce que je suis attiré par une langue à chaque fois. Découvrir des auteurs contemporains, c'est avant tout ça.
Une langue nouvelle, quelque chose qu'on n'a pas entendu.
Ouais, des choses qui surprennent, qui
nouvelle façon... voix.
Ouais. Ouais, une façon d'écrire, un rythme. J'ai eu la chance de travailler avec des auteurs depuis que je suis ici, parce qu'avant je travaillais pas en compagnie, donc j'étais plutôt un comédien, donc je choisissais pas les
textes.
Voilà, les textes. Là, maintenant, disons que depuis le Théâtre Dû et même maintenant avec Hop Compagnie.
Avec la compagnie qui a été créée en 2017, encore très récemment.
Ouais, très récemment. Avec Paul, c'est plutôt effectivement. Les projets, ils partent de moi, c'est-à-dire parce qu'il faut bien trouver un texte et voilà. Et après, Quant à la mise en scène, on travaille à deux. Et là, sur la dernière création, c'est Paul qui a mis en scène seul, comme elle l'avait fait également pour le Mardi à Monoprix. Et voilà. Je suis seul en scène sur le Mardi à Monoprix, donc ce n'était pas possible pour moi de faire des allers-retours comme ça. Et même pour ça.
Il faut bien un miroir.
Voilà. Et oui, la langue, quoi. D'une part, parce que ça parle du monde, les auteurs d'aujourd'hui parlent du monde dans lequel on vit. Mais il y a ce qui fait la différence entre certains auteurs de théâtre, ceux qu'on a envie de jouer, en tout cas, je parle pour moi là, et les autres, c'est que y a cette façon d'aborder, quoi. Quand on parlera tout à l'heure de la dernière pièce, c'est une seule et même phrase, quoi. Et il y a un souffle incroyable. Et Coltès, qui a été le premier, celui dont tu parlais tout à l'heure, de la solitude des champs de coton, qui est le premier vrai spectacle qu'on a créé avec le Théâtre du, une espèce de joute oratoire comme ça entre un client et un dealer. On ne sait pas du tout ce que ça deal d'ailleurs. Hein,
c'est ça.
Ça peut être de la dope, ça peut être de l'amour, ça peut être du temps.
C'est à la fois hyper concret et totalement abscon.
Ouais, abscon, parce que ce qui est important pour le dealer et pour le client, finalement, au bout d'un moment, c'est de passer du temps ensemble. Que ce soit pour l'amour, que ce soit pour la drogue, ou juste pour ne pas être seul, quoi. C'est un désir de mort aussi, quelque part. Enfin, c'est très profond. Et c'est un texte génial. Et Coltès avait écrit un texte qui s'appelle La nuit, juste avant les forêts. Où c'est un type comme ça qui aborde un autre type dans la rue et qui se raconte, et c'est une phrase unique qui fait 60 pages et qui se termine par un point. Il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de ponctuation, c'est comme ça, un G. Et moi j'adore ça, parce que c'est quand tu lis ce texte là juste comme en tant que lecteur, quand tu as fini de la lecture, t'es pas fatigué, c'est que tu l'as pas bien lu. Il faut être fatigué parce que ça éprouve physiquement, quoi. Et j'aime ces langues qui accrochent comme ça.
C'est ça qui va déclencher chez toi l'envie de,
ouais,
de choisir clairement un texte, de le jouer.
Clairement. Avant même le sujet, des fois. Des fois, le sujet, c'est un prétexte. C'est parce que j'ai entendu une musique, quoi. Et je me dis, ah, c'est bien. Et puis après, je me dis, ah, la thématique, c'est encore un truc un peu dur.
Merde.
Mais
il y a une fidélité, en tout cas, à certains auteurs avec qui tu as travaillé plusieurs fois.
Ouais.
Laurent Godet,
ouais,
est un auteur que tu as mis en scène, enfin vous avez mis en scène deux fois.
Ouais.
Emmanuel Darley aussi,
ouais,
auteur de Un mardi à Monoprix.
Ouais. Oui, ça c'est. Alors après, c'est avant même. Pourquoi après? Avant, c'est des rencontres humaines. C'est-à-dire que l'avantage de travailler avec des auteurs contemporains,
c'est qu'on peut les rencontrer.
On peut les rencontrer quand ils sont pas morts trop jeunes. Et le premier que j'ai rencontré, c'est Laurent Godet. Et avant qu'il soit à Goncourt et tout ça, hein, parce que c'est aussi un romancier, mais il a commencé par le théâtre, Laurent. Et tout de suite, quand j'ai lu ces textes, je me suis dit, il y a quelque chose, quoi. C'est très littéraire. Et en même temps, il y a une matière à l'oralité, quoi. Et de plus en plus, je vais vers ça, vers des auteurs qui sont extrêmement littéraires, avec des langues. C'est le cas de Mauvignier, là, le dernier. Et en même temps, ils écrivent.
Une oralité, quelque
mais
chose.
Parce qu'ils écrivent comme, ouais, ça,
comme
maintenant.
Comme si ça avait été écrit d'abord à voix haute.
Absolument. Ouais, c'est, ouais. Je dirais que c'est même pas comme si. Ils écrivent comme ça. Mauvignier écrit comme ça. Godet écrit comme ça. Darley écrivait, ouais, comme ça.
C'est pour être le point commun, finalement.
Ouais. Mais de plus en plus d'auteurs aujourd'hui, ou d'autrices, ou d'auteureux.
Ouais, c'est ça.
C'est horrible.
Ça s'entend pas à la radio.
Non, mais c'est horrible, ça. Auteureux, autrice. On pourrait trouver un autre mot plus joli que ça, je trouve. Mais écrivent comme ça, à haute voix. Et je pense que c'est pour ça que finalement, comme ils écrivent à haute voix, on retrouve ce besoin de dire à haute voix quand on lit, et donc que ça peut faire théâtre. Alors après, y a des récits qui sont difficiles à adapter, hein, je dirais, à mettre en scène, quoi. Mais en tout cas, sur la manière de dire, c'est là, on n'a pas beaucoup à...
Ce que j'appelle Oubli, donc la dernière création de la Hop Company que vous avez créée le 7 avril, 7 mars dernier.
Le 1er mars, à Loiron.
Ouais. Ouais. Et puis le 7 mars, ensuite à Mayenne.
À Mayenne,
si,
ouais,
je ne me trompe pas. Ouais. C'est pas un texte qui a été écrit pour le théâtre, ce texte de Laurent Mauvignier. C'est d'abord un livre.
Ouais.
Un objet un peu étrange, puisque c'est un livre d'une soixantaine de pages.
Ouais.
Avec, comme pour le texte de Coltès que tu citais tout à l'heure, une seule phrase,
ouais,
qui traverse ces 60 pages. Voilà, comment on aborde cet objet non identifié? Comment on travaille pour arriver à le mettre en scène, ce pavé-là?
Bah, à le mettre en scène encore, c'est pas la... Enfin, c'est peut-être pas la chose la plus compliquée. Ce qui est,
il n'a pas été pensé pour ça, en tout cas.
C'est ce qui... En fait, c'est... ça remonte à 2011. J'étais à Paris parce que j'avais un rendez-vous avec mon agent. Je rencontre une copine qui était dans la même agence que moi. Et on discute. J'habitais déjà là. Voilà. Elle me dit, tu fais quoi maintenant? Je dis, bah, écoute, là, je suis à Paris jusqu'à demain, donc j'ai un peu de temps. Et elle me dit, je vais voir Podalydès à la Comédie Française, au studio de la Comédie Française. Il fait un texte que j'ai lu. Elle me dit, c'est un truc incroyable. Donc, si tu as une heure et quart à perdre, voilà. Donc, là, dans ce cas-là, c'est plutôt à gagner, d'ailleurs. Mais... Donc, voilà. Et je vais avec elle et je vois Podalydès. Enfin, on l'entend, il marche sur la scène, on ne le voit pas, c'est dans le noir, la lumière arrive, et pendant 1h05, 1h10, comme ça, boum, 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 il te sort ce texte-là de 60
ans. Ah oui, il a déjà été mis en scène.
Ouais, d'accord. Par lui.
D'accord.
C'est le premier à l'avoir créé.
Ok.
Boum, 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 et il envoie ça, et toi, t'es là, tu fais... C'est le public de la Comédie Française, donc des gens qui sont habitués à ce genre d'exercice. C'est hard, hein, ce texte, c'est un texte assez violent, mais le fait de pas de mise en scène, pas de lumière particulière, pas de son, pas de machin, tu vois, à l'os. Et là, tu te dis, waouh. Et quand je suis sorti, la première chose que j'ai fait, je suis allé à la librairie de la Comédie Française, j'ai acheté le bouquin. J'ai même pas été boire un pot après avec la fille, j'ai pris le métro, je suis rentré et j'ai lu. Et je me suis dit, dans quel état ça le met? Lui, il a fait... C'était presque une lecture, presque.
Mais voilà.
Mais une lecture sans le livre à la main, d'accord? Mais c'était comme un truc, c'est... une note. Et tu te dis, putain, mais c'est... tiens, il change pas, il varie pas, et tout
pas
ça. Et en fait,
pas beaucoup d'amplitude.
Non, et en fin de compte, il fait que ça. C'est là où c'est très très fort, c'est que toi, quand tu repars, c'est comme si tu avais avalé un cachet, et que tout d'un coup, le cachet, au bout d'un moment... il se répand, enfin tu vois, le produit il se répand et ça te remplit. Et moi, ça m'a fait ce truc là, je me suis dit, ça m'a bouleversé, mais genre 20 minutes plus tard.
Ouais.
Et je me suis dit, waouh.
Second effet qui se coule.
Ouais, et voilà, c'est le second effet qui se coule, voilà, exactement. Et je me suis dit, ce comédien il est juste incroyable. Et ce texte est phénoménal. Et à partir de ce moment là, je me suis dit, il faut absolument qu'en Mayenne, on entende ça, on entende un texte comme ça. Et qu'on dit, parce que Mauvigné est un auteur, un romancier qui est pas mal édité quand même. Il est édité chez Minuit, mais il est pas mal lu. Enfin, c'est quelqu'un qui est reconnu. Et voilà. Et après, on a fait cette aventure-là. Alors,
un mot sur le texte, ce qu'il raconte. Enfin, quand même, c'est important, je pense, de donner le contenu. Enfin, le fond de ce qui
s'est tiré d'un fait divers.
D'un fait divers.
Pardon, voilà, ouais. D'un fait divers en 2009 qui s'est passé à Lyon. C'était l'été et un type. Sûrement un peu marginal, se balade dans le centre commercial de cette ville de Lyon et rentre dans le supermarché du centre commercial. Il se balade dans les rayons, comme ça, comme on peut le faire. Voilà. Et puis, il passe par le rayon canette et là, il a soif, peut-être. Il prend une canette et en même temps, il est filmé par les caméras vidéosurveillance. Du coup, quatre vigiles arrivent, l'emmènent. Sans lui demander quoi que ce soit, on pourrait supposer qu'ils vont l'emmener dans le local de sécurité pour lui demander s'il a l'argent pour payer, tout ça. Mais il l'emmène dans les réserves. Et puis, il commence à rigoler, une petite pichenette sur la tête, des petits machins, des petites claques comme ça, pourquoi tu ne veux pas payer ta bière et tout. Et en fin de compte, il le frappe, il le roue de coups et il meurt. Et le texte commence par cette conjonction de coordination et qui dit « Est-ce que le procureur a dit, c'est qu'un homme ne doit pas mourir pour si peu ?» Et ça part comme ça sur 60 pages. Il raconte sa vie, donc là c'est une fiction. Hein, et le type qui parle s'adresse au frère supposé de la victime. Et ça court comme ça et ça déroule sa vie. Ça déroule aussi l'événement dans le détail. Comment ils l'ont frappé, à quel moment ils l'ont frappé, pourquoi ils l'ont frappé, ce qu'ils lui ont dit.
Ce qu'il a ressenti lui.
Ah oui, ce serait.
Alors est-ce que toi justement, comment tu joues ça? Est-ce que tu interprètes ce texte-là parfois en jouant les rôles? En jouant un vigile, en jouant la victime
En fait, c'est une question de je joue pas le personnage du vigile, le personnage du procureur. C'est simplement des petites couleurs qui sont différentes vocalement.
Il n'y a pas de gestuelle, par exemple.
Non, non. J'aime pas non plus cette idée de courir derrière un rôle comme beaucoup de gens font parfois. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de... Il faut le laisser venir, quoi. C'est des choses qui te traversent. Et alors, il ne s'agit pas d'une lecture sans livre.
Oui.
C'est vraiment une interprétation, sauf qu'il faut laisser la place. C'est tellement dense. Il y a tellement de mots pendant 1h05. Il y a tellement de choses que si tu en mets beaucoup, toi, dans l'interprétation, si tu essayes de faire l'acteur...
Ça va charger.
Tu n'entends plus rien. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin, quand tu conduis une Ferrari, tu n'as pas besoin de faire le mariole. La Ferrari va faire le chemin, enfin tu vois, tu es juste prudent. Ça, pour moi, c'est de la Ferrari, ça. Donc, quand tu as des textes comme ça, il ne faut pas les abîmer.
Un autre acteur important de cette pièce-là, c'est important de l'évoquer aussi, c'est la musique.
Ah bah oui.
Tu as parlé de ton rapport à la musique tout à l'heure. Il y a eu pas mal de pièces que vous avez pu mettre en scène qui utilisent la musique comme un élément principal, parfois avec des musiciens sur scène. Et ouais. C'est aussi le cas là, puisque en fait, c'est un duo, ce ouais. spectacle, ouais. avec Bruno Legrand à la guitare.
Ouais, absolument.
Qui t'accompagne.
Ça, l'idée de la musique, c'est Paul, Groslot. Et tout de suite, quand elle a lu le texte, quand je lui ai passé le texte, elle m'a dit, ça, c'est génial. Et elle a dit, mais moi, j'entends de... Alors, c'est tellement une musique aussi, le texte de Mauvigné. Et elle me dit, mais moi, je vois un musicien, je vois un guitariste. Bon, après, on s'est souvenu au bout d'un moment qu'on connaissait quelqu'un qu'on avait déjà vu au Grand Nord, Bruno. Alors, on le connaissait, mais parce que des fois, il nous aidait techniquement quand on faisait une lecture ou un spectacle à l'auditorium du Grand Nord. Un garçon absolument charmant. Et on lui a proposé ça. On a fait quelques essais. On a fait une lecture, ce qu'on appelle une lecture performée, parce que quand il ne s'agit pas d'un texte de théâtre, ça s'appelle souvent comme ça. C'est un peu
performance.
Performance, voilà. Lecture performée, ça fait bien. Pendant les 3F. Ouais. L'année dernière,
sur les 3 éléphants.
Et puis des gens qui sont venus ont dit ouais, c'est un texte assez incroyable, ça serait bien de l'entendre, est-ce que tu comptes aller plus loin, et ça. Et donc on en a parlé avec Paul et Bruno, et l'idée est venue de répéter, et donc la musique est venue comme une BO. En fait, il assistait aux répètes, et pendant que moi je travaillais, que je disais le texte, il cherchait des trucs, avec Paul ça discutait beaucoup. Et en fait, il a construit en fonction, et sur les fois où on a joué, là, c'est rigolo, parce qu'en fonction de comment, bon mais là on se connaît mieux quand même, mais des moments où il me sortait différemment, d'une représentation à l'autre, d'une répète à l'autre, il bougeait le curseur aussi pour lui, quoi. Donc c'est vraiment un travail à deux. C'est pas juste j'ai composé une musique et après je suis là et je fais mon
truc. Il y a une interaction.
Absolument. Ouais.
Cette musique-là, on va l'entendre avec un extrait du spectacle très court,
ouais.
qui permet d'entendre un peu,
ouais,
peu l'univers.
Le montage de Thomas Ricou.
Mais je te l'ai dit. Mais je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Toujours cette connerie d'espoir qui me fait croire que ça va s'arranger. Ça va aller. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne crois pas que si les gens voulaient, ça vaudrait le coup d'attendre. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps. Le plus longtemps possible.
On entend, je trouve, les coups, les...
Ouais, ouais, non, mais il y a vraiment
la bagarre,
ça.
La violence, on l'entend.
Il y a une tension, quoi. Et ce qui est beau dans ce qu'a fait Bruno, c'est ça, c'est cette tension et de fois d'aller de faire des contrepoints, d'amener une grande douceur dans les moments où c'est un peu punchy, même. Et, on est très heureux avec Paul de cette collaboration.
Parfois, la musique soutient la parole. Parfois, elle est seule.
Ouais.
Parfois, la parole est seule.
Ouais. C'est ça, il y a une alternance, il y a Mais il y a beaucoup de musique quand même. Je suis pas sûr qu'au départ on avait pensé avec Paul, enfin surtout elle, à ce qu'il y ait autant de place.
Autant de place. Ouais.
Et puis finalement, c'est bien. Enfin nous, on trouve ça bien.
Alors il y a eu ces deux premières représentations.
Il y en a eu trois en tout parce qu'on a joué deux fois à Mayenne pour le jeune public, enfin pour les scolaires.
D'accord. Alors il y a eu ces trois premières représentations. Ouais. c'est quoi la suite? Comment vous voyez la suite de ce spectacle-là?
La saison prochaine, il y a Laval et puis peut-être il y a des pistes là qui sont plutôt pas mal où les programmateurs qui sont venus du département ont trouvé plutôt le travail bien. Et il y a la région aussi qui est venue, la responsable du spectacle vivant, la DRAC aussi, qui ont beaucoup aimé le spectacle. Donc ils vont essayer d'en parler et notamment peut-être pour l'année prochaine. Prochaine pour le coup, là, pour Région en scène, le Chaînon et tout ça. Voilà. Et je pense que c'est un format qui pourrait très bien marcher avec le Chaînon. Parce que je pense que le Chaînon,
ça
a bougé. Il y a une époque où je trouvais que c'était un peu consensuel.
Le festival du Chaînon manquant pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Festival à Lavallois qui concentre beaucoup de programmateurs qui viennent. Voir des spectacles pour ensuite les programmer chez eux.
Ouais, c'est un marché très, très important. Et je trouvais moi, je parle de ça il y a très longtemps, au début du Chaînon manquant, où c'était un peu consensuel quand même. Et je trouve que maintenant, on va vers des choses qui sont beaucoup plus exigeantes et beaucoup plus intéressantes. Et c'est bien. Et je pense qu'un texte comme ça pourrait trouver sa place, vu que les gens, apparemment, sont assez séduits. Ça serait dommage qu'on ne tourne pas bon sang.
Donc, petit message aux programmateurs du Chaînon manquant, au passage. Merci, Patrick, pour ce moment passé ensemble. Puisque malheureusement c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est un plaisir.
Donc prochain rendez-vous, on en a parlé, on guettera le calendrier des prochaines dates de ce spectacle en Mayenne et ailleurs, j'espère. Merci à Vincent qui a assuré la régie de cette émission.
Merci Vincent.
Rendez-vous le 9 mai pour une émission Transistor, cette fois-ci en live, en public, au Rex à Château-Gontier avec en invité le collectif Team Peace, Adon Hippie et Duro. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur L'Autre Radio.